Bonjour. Alors, je vais vous donner un mot, vous allez me dire si vous connaissez, vous avez déjà entendu l'Exode. Vous connaissez ce mot? Alors, je ne parle pas de l'Exode des Syriens qui viennent chez nous, pour des raisons très comparables, qui fuient l'esclavage. Je parle d'un autre Exode, celui dont parle la Bible. C'est l'histoire d'un peuple. Un peuple qui se trouve dans une sale posture en Égypte. Ils sont esclaves. Une posture, en fait, de laquelle le Dieu qui avait appelé leur ancêtre, Abraham, vient les sortir. C'est ça, l'Exode. Dieu prend un peuple d'esclaves, un peuple qui est opprimé, un peuple qui ne fait pas, qui ne choisit pas là où il veut aller, qui ne peut pas vivre. Se saisir des grâces de Dieu parce qu'il est, je dirais, écrasé par toutes sortes de préoccupations qui sont les fouets et les ordres des Égyptiens. Et après, vous connaissez l'histoire? Moïse, les 10 plaies, j'ai pris des notes quand même, on ne sait jamais, la mer Rouge, et puis le Sinaï. Voilà, le Sinaï, Dieu donne les 10 commandements et il se passe toutes sortes de choses. Et après le Sinaï, justement, souvenez-vous, Dieu, et on l'oublie peut-être cette petite partie-là, les amène comme promis aux portes du pays qu'il avait désigné à cet ancêtre, Abraham, Canaan. C'est la terre promise. Mais là, tout ne se passe pas exactement comme prévu. Dieu les extrait. Il se passe toutes sortes de signes, et puis ils arrivent aux portes de ce pays, et voilà ce qui se passe. Je vous invite à lire, alors on va lire un long texte aujourd'hui. Ça commence en Nombre 13. Alors je vais sauter un passage à un moment donné, parce que tous les sites, plein de trucs, voilà, on va le parcourir. Nombre 13, à partir du verset 1. L'Éternel, donc ils arrivent devant aux portes de ce pays, l'Éternel dit à Moïse: Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. Moïse envoya ces hommes du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs des Israélites. Alors je passe le passage qui suit, je saute au verset 21 parce qu'il y a une longue liste de tous les noms dont je vous épargne. Ces hommes montèrent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le sud et allèrent jusqu'à Hébron, où se trouvaient Aïman, Shéshaï et Talmaï, les descendants d'Anak. Hébron avait été construite 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils la portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud, les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Caleb est donc l'un de ceux qui sont partis. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qu'il y avait accompagnés dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. On passe au chapitre 14. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte ?» Ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel. » Et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons de qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection, et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. » Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites, l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi ?» Malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui. Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens ont appris que tu as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance. » Et ils ont dit aux habitants de ce pays, ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui et que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple d'un seul coup, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de conduire ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a exterminé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, conformément à ce que tu as déclaré, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne la faute et la révolte, mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne la faute de ce peuple, conformément à la grandeur de ta bonté, tout comme tu lui as pardonné depuis l'Égypte jusqu'ici. » L'Éternel dit, « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Les Amalécites et les Cananéens habite la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer des roseaux. » L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les plaintes des Israélites qui murmuraient contre moi. Annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire j'avais juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Noun. Quant à vos petits-enfants, eux dont vous avez dit qu'ils deviendraient une proie, je les y ferai entrer. Et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert. Et vos enfants seront nomades pendant 40 ans dans le désert. Ils supporteront les conséquences de vos infidélités jusqu'à ce que tous vos cadavres soient tombés dans le désert. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans, une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront détruits dans ce désert et ils y mourront. Je vais m'arrêter là parce que ça se poursuit. Et c'est ce qu'il s'est passé. Vous connaissez la suite, l'Exode. L'Exode, c'est plutôt cette image qu'on en a 40 ans dans le désert. Ce Dieu va conduire et façonner ce peuple dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à, et c'est la suite, c'est la fin de ce Pentateuque, jusqu'à ce que ce même Josué le conduise dans la terre promise. Vous connaissez peut-être aussi l'histoire, c'est le livre de Josué. Jusqu'à, en fait, ce que ce peuple marche avec Dieu. Jusqu'à ce que ce peuple apprenne à marcher avec Dieu. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'analyser un peu ce qui se passe à ce moment clé de l'histoire de l'Exode. Comme je l'ai dit au début, tout d'abord, Dieu se rassemble un peuple à partir d'esclaves. Il y a la sortie d'Égypte. Le peuple est esclave. On l'a déjà dit. Il fait lever Moïse comme leader pour l'arracher des mains des Égyptiens. Et plusieurs signes puissants se produisent. Des choses remarquables. Les 10 plaies en particulier. Vous connaissez les plus marquants, les 10 plaies donc. Et puis cette fameuse traversée de la mer qui s'ouvre. Puis vient l'épisode du Sinaï. Dieu, encore, fait des signes puissants, il donne les tables de la loi. Et là, c'est justement la base de l'alliance. Dieu n'a pas fait sortir ce peuple pour dire « Allez, amusez-vous maintenant », il les a pris pour aller faire quelque chose avec eux, pour nouer quelque chose d'éternel, une alliance éternelle entre eux et lui. L'alliance qui représente la relation que Dieu tisse avec son peuple. Quelque chose d'intime. Et la loi est là pour le rappeler. La loi, c'est la balise, ce sont les balises de cette relation, des moments les plus grands de la vie de ce peuple jusqu'aux petits détails de la vie quotidienne. Vous savez, dans la loi, il y a plus de 600 prescriptions, je ne sais plus exactement combien. Chacune régule. Pourquoi ? Pas pour dire aux gens il faut faire ci ou ça, pour dire moi je suis avec vous dans chaque instant de votre existence. Je suis présent. À la base de la loi, il y a l'alliance, la relation entre Dieu et son peuple. Dieu s'immisce dans leur religion. Il faut savoir que toute la religion, j'en ai déjà parlé dans une autre prédication, c'était quelque chose que tous les peuples avaient. Il y a plein de choses qu'on peut trouver des similitudes entre ce que le peuple juif avait et la loi juive et les lois des peuples autour. Sauf qu'à chaque fois, Dieu est présent. Et c'est ça le fil rouge conducteur, le sceau, la marque de fabrique de cette loi, la présence de Dieu au milieu du peuple. Je vais vous lire un verset. Ésaïe 43, 19. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas. Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Ensuite, Dieu poursuit son action. On le retrouve en train de les conduire vers le pays promis. la suite de la loi, il y a eu cette histoire de tabernacle qui était au cœur du peuple. Vous pouvez regarder dans vos Bibles, celles qui ont des schémas. Et puis cette nuée qui est posée là. Dieu les conduit, il suit sa route directement. Il n'y a pas de 40 ans là. Et il y va, il dit « Je vais vous faire sortir parce qu'on va quelque part ensemble. » Pourquoi ? Parce que Dieu a fait une promesse à Abraham. Cette promesse, c'est la concrétisation de l'alliance, c'est de la relation que Dieu vient établir dans la vie de ses humains. Dieu a un plan pour ce peuple. C'est ce que la promesse annonce. Dieu est en train d'écrire une histoire avec eux, dans leur propre histoire, avec ce qu'ils sont. Il vient s'adresser à eux, il vient écrire quelque chose. Ces promesses ne sont pas juste des bénédictions pour amuser la galerie, c'est vraiment la marque d'un Dieu qui s'implique. Et vous savez jusqu'où il s'impliquera. Qui s'implique pleinement dans la vie de ce peuple. D'ailleurs, vous le savez peut-être pas, mais l'identité d'Israël est liée à ce pays promis. D'où ces questions d'ailleurs quand on a refait Israël et tous ces débats éternels là, avec la terre. Ce n'est pas juste histoire d'avoir une terre. Cette terre en particulier fait partie intégrante de l'identité du peuple d'Israël. Vous savez, on parle de trois piliers de la vision du monde d'Israël. C'est Dieu, d'ailleurs l'éthique d'Israël, tout ça, il y a un livre sur ça, se fonde sur la présence de Dieu, le fait qu'il y ait le peuple, la collectivité et la terre. C'est la trilogie. Dieu, la terre et le peuple. C'est les trois piliers de l'identité d'Israël. On est là face à la vocation de ce groupe d'humains. Ce à quoi Dieu le destine. Cette terre fait partie intégrante de ce que Dieu est en train d'établir avec ce peuple. Ce à quoi Dieu le destine, ce qu'il a prévu sur mesure pour eux, ce Canaan, alors qu'eux-mêmes ne se considèrent que comme des esclaves. Et c'est leur réaction, vous le voyez. On ne peut pas rentrer en ce pays, il n'est pas pour nous. On va avoir des problèmes. Je vous lis Jérémie 33, versets 2 et 3. Voici ce que dit l'Éternel, qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en les préparant. Celui dont le nom est l'Éternel. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Voilà la trajectoire de Dieu. Et puis à côté de celle-là, il y a la trajectoire du peuple. Et ce qu'on voit, c'est un peuple qui fait face à ses peurs. Le peuple a un rapport avec Dieu encore hésitant. C'est ce que l'Éternel le rappelle. À 10 fois, ils m'ont... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas compté le nombre de fois, si Dieu le dit. Mais on voit l'épisode du veau d'or. On voit déjà aussi quand ils sont devant la mer, il y a plusieurs moments où le peuple hésite devant ce Dieu qui les sort avec puissance. Ils ne sont pas habitués à tant de puissance. Malgré tout ce qu'ils ont déjà vécu, tous ces signes, toutes ces grandes choses que Dieu a montrées, Dieu est encore une entité un peu périphérique dans leur univers, dans leur cœur. et aussi dans la manière dont ils mènent leur barque, la manière dont ils prennent leurs décisions. Dieu est quelqu'un qui vaguement les guide, mais il n'est pas celui qui vraiment les prend, comme je vous avais parlé avec Pierre avant et après la résurrection. Il est quelqu'un avec qui ils se permettent, dont ils se permettent de mettre en doute la parole. Il est peut-être cette voix lointaine qui s'exprime, vous savez, dans l'orage sur le Sinaï. Parce que c'est ça l'histoire, c'est eux n'entendaient qu'un brouhaha prophétique. C'est comme ça qu'ils entendaient Dieu. Un signe vague et lointain de quelqu'un qui s'occupe d'eux, mais quand même. Il n'est pas encore celui qui conduit chacun de leurs pas. Quand les promesses de Dieu et sa parole deviennent abstraites face aux idées et face aux peurs humaines. Quand on préfère gérer et faire confiance à ses propres raisonnements, à sa propre perception des choses, plutôt qu'à ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait, ce que Dieu fera, ses promesses. Leurs regards sont focalisés, obsédés, rivés sur les incertitudes, sur ce qu'ils ne contrôlent pas, c'est-à-dire dans la mauvaise direction. Ésaïe 41, verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Et le peuple finit par repartir dans le désert. Est-ce un abandon de Dieu, d'eux-mêmes ? Est-ce que Dieu laisse tomber avec eux, dégoûté ? L'échange avec Moïse dit le contraire. Montre que Dieu veut continuer à avancer. Et il veut amener ces gens à prendre position. Et c'est ce que font d'ailleurs Josué, Caleb, Moïse. C'est ce qu'avait fait Abraham avant. Et il dit, parce que c'est ça que je veux des gens qui se lèvent pour moi. Et il met en avant leur attitude et leur réaction. Il dit, je vais continuer et on va avancer. Est-ce que c'est peut-être aussi un fâcheux contretemps ? Ils auraient pu rentrer directement. Cette histoire, elle est quand même terrible. Ils y allaient, naturellement. L'histoire était toute faite. En hésitant, en tâtonnant. Mais Dieu avait fait des signes et ils avançaient tout droit vers ce pays promis. Et là, d'un coup, ils repartent de manière, je dirais, inattendue, et avec notre recul, peut-être que ça nous semble frustrant, ils repartent 40 ans dans le désert. La suite de l'histoire montrera que Dieu ne restera pas à distance ou silencieux. On pense évidemment à cette nuée et à tout ce que Dieu va faire avec eux, dans son silence, mais avec la manne, l'écaille, toutes ces choses-là, accompagner ce peuple dans le désert. Parce que ce temps dans le désert, c'est un temps de formation. Dieu va façonner ce qu'il a manqué au peuple pour rentrer dans le pays promis. Une confiance. Pas des belles paroles. Une confiance. Pas quelqu'un comme avec Pierre qui se lèverait pour dire « Je vais faire ci ou ça pour toi », mais quelqu'un qui dit « Toi, Seigneur, je t'écoute. » J'ai pas prévu ça, mais je m'aperçois que l'histoire de Pierre, elle est vraiment en parallèle avec ça. Le plan de Dieu s'accomplit dans tous les cas. Dieu choisit de composer avec les limites humaines. C'est ça que ce texte nous montre, je trouve. Avec les limites humaines. Parce qu'il choisit cet humain-là, celui qui est faillible, celui qui est craintif, pour manifester sa gloire et son royaume. Il va montrer que l'humain est compatible avec la présence de Dieu, quel que soit son état. Sa gloire n'est pas un peuple bien sous tout rapport, mais un peuple qui apprend à lui faire confiance et à marcher avec lui. Pas un peuple qui réussit dans tout ce qu'il fait, mais un peuple qui entend sa voix et qui se laisse guider. Un peuple qui ne s'enferme plus dans son propre agenda, dans ses propres objectifs, mais qui apprend à marcher avec et se laisser éclairer pas après pas, lorsqu'on ne sait pas ce qui va se passer une semaine, un mois, un an plus tard, 40 ans plus tard. Ésaïe 42, verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux et je redresserai le passage tortueux. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai pas. Alors qu'ils étaient aux portes du pays promis, là où Dieu les invitait à entrer avec lui, ils ont préféré s'arrêter. Ils ont hésité, incertains, suspicieux, tièdes. Vous savez, c'est ni oui ni non. Leur confiance en Dieu avait besoin d'être éprouvée. Pour eux, ça passera par 40 ans de désert. Et pour en revenir où ? Au point de départ. Vous savez, les rives du Jourdain, devant ce pays promis. Le plan de Dieu s'accomplit. Cela même qu'ils avaient fui auparavant. Et enfin, traverser le Jourdain et entrer dans la terre promise. Ce n'est pas le paradis, mais c'est le chemin que Dieu construisait avec eux. Et vous voyez la suite de l'histoire, il y a eu plein de rebondissements et de complications, mais ils étaient dans cette marche avec Dieu. Je finirai juste par la lecture de ce proverbe, 29-25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes, sa peur, leur peur, finit par les enlacer. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Non pas celui qui se confie dans ses craintes. Nous pourrons penser naturellement que si on se confie dans nos peurs, on va se protéger parce qu'on va agir. Ce verset dit exactement le contraire. À s'appuyer sur nos peurs, sur ce qui nous fait peur, on finit par tomber dans des pièges, de plus en plus enserrés. Jusqu'au moment où on crie à l'Éternel, psaume 107, et le Seigneur les amène au port désiré.